IDFM Radio, le média valdoisien.
Bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Merci d'être au rendez-vous de l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Enjeux, flux, tendances du commerce international. Ce matin, mardi 23 avril 2024, experts et expertes sont présents sur ce plateau pour nous dire tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène installé depuis le 19e siècle. Soumis depuis à des accélérations ou des ralentissements selon les événements géopolitiques du moment. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Jonker. Bonjour Michel.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
C'est un plaisir.
Paste président du MEDEF Val-d'Oise, membre élu à la CCI Paris-Île-de-France et Val-d'Oise, conseiller du commerce extérieur de la France, docteur en sciences de l'éducation, PhD de l'éducation et de la formation. C'est bien en tant que conseiller du commerce extérieur de la France que vous allez intervenir dans quelques instants pour nous dévoiler les préceptes et fondamentaux de ce commerce international. Alors, on attend, je vais annoncer Jean-François Benon qui devrait arriver dans quelques minutes, qui est, je crois, un petit peu coincé dans les embouteillages. Donc, Jean-François qui est directeur général du CEVO, l'agence de développement et d'attractivité du Val d'Oise, dont les services visent la promotion économique du territoire à travers des opportunités riches et variées, dont certaines internationales, parce que Jean-François Benon est également conseiller du commerce extérieur de la France. Et à nos côtés, bien dans le studio, Sandès Beltaïev. Bonjour Sandès.
Bonjour Jacqueline.
Merci infiniment pour votre présence à notre antenne. Contrôleur interne dans une grande banque française, maire adjointe en charge des finances, on peut dire la ville ? Oui, non, non, dans une ville du Val d'Oise. Vous êtes également la présidente du cercle Elissa, une association qui œuvre au renforcement des liens entre la France et la Tunisie, et ce dans plusieurs domaines, dont les échanges commerciaux. Et nous avons hâte, bien sûr, d'en savoir plus. Encore bienvenue et merci pour votre présence en direct à tous les trois. J'inclus Jean-François comme s'il était là sur IDFM Radio dans l'économie en direct. Une émission à retrouver bien sûr comme bon vous semble en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. Alors, commerce international, géopolitique, le décor est planté pour donner la parole comme régulièrement à notre chroniqueur valdoisien Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique, auteur de Décryptons le monde. Gérard Vespierre, je crois, Michel Jonker, vous connaissez très bien.
Oui, mais ça fait des années que je connais ce monsieur, qui est un excellent essayiste et qui a toujours d'excellentes idées à proposer, comme vous allez d'ailleurs lui demander de parler.
Absolument. Donc, tenant compte de nos sujets du jour, Gérard nous propose ce matin de parcourir les zones de crise du monde en envisageant les conséquences sur l'économie mondiale. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, et à vos invités et aussi bien sûr à nos auditeurs.
Bien sûr. Alors Gérard, vous nous proposez ce matin de regarder le ciel, non pas au-dessus de la France mais au-dessus de toute la planète, un ciel rempli de nuages géopolitiques et qui pourrait bien projeter leur ombre sur l'économie mondiale. Comment croyez-vous donc la situation dans l'économie, dans ce que vous appelez, pardon, les arcs de crise du monde ?
Alors, je discerne effectivement, Jacqueline, sur notre belle planète bleue, quatre arcs de crise. Premièrement, l'acte de la mer de Chine, de la Corée aux Philippines, celui de la frontière européenne-russe. Troisièmement, l'arc moyen oriental de Kaboul à Beyrouth et l'arc de la bande sahélienne. Or, nous avons en ce début d'année 2024 trois de ces quatre arcs en ébullition avec de potentiels effets économiques mondiaux. Nous faisons face à une véritable guerre sur l'arc de la frontière européenne-russe, des tensions de plus en plus fortes en mer de Chine et une potentielle augmentation des risques au Moyen-Orient.
Oui, alors vous avez commencé par l'arc le plus proche de nous, celui de la frontière russe, avec bien sûr cet effroyable conflit avec l'Ukraine. En ce début de troisième année de guerre, comment voyez-vous la situation évoluer et quel pourrait en être l'impact sur l'économie mondiale ?
Alors, avant de lancer l'invasion du 24 février 2022, les soldats russes sans uniforme étaient déjà présents dans le Donbass ukrainien et la Crimée avait été annexée, souvenons-nous, en mars 2014. Donc, depuis deux ans, les gains territoriaux réels russes sont seulement de l'ordre de 10% du territoire ukrainien. Je dis bien les gains. Et le front ne progresse ni d'un côté ni de l'autre. Les armes n'ont donc pas encore rendu leur verdict. Si la Russie veut imposer ses choix, elle doit continuer à gagner du terrain, voyez-vous. Donc, reprendre l'offensive. De l'autre côté, l'Ukraine veut essayer de regagner une partie du territoire perdu. Donc, une poursuite et une intensification des combats sont probables. Les frappes ukrainiennes en Russie sur les installations pétrolières russes participent à l'augmentation de la tension sur le marché pétrolier, le prix du baril, donc le prix à la pompe, etc. Une telle impulsion pétrolière est mauvaise pour la consommation des ménages en Europe et ces bruits de bottes à la frontière européenne poussent les consommateurs à l'épargne. Nuage géopolitique, nuage économique.
Évidemment. Alors effectivement, dans cet arc de crise sur la frontière russe, les pronostics ne sont pas très positifs. Un peu plus à l'est, qu'en est-il de l'influence des tensions en mer de Chine ?
Alors tout d'abord, Jacqueline, qu'en est-il de l'économie chinoise, deuxième économie mondiale ? Nous avons déjà eu l'occasion de l'aborder. La Chine est entrée dans une phase de ralentissement de sa croissance depuis 2010. D'un niveau de 10% de croissance annuelle, ce pays, sans vouloir le reconnaître officiellement, est passé sous les 5% l'an dernier et sera entre 4 et 4,5% cette année. La population chinoise, elle aussi, a commencé à décroître, ce qui signifie une diminution du nombre de consommateurs chinois. Le chômage des jeunes en Chine n'a jamais été aussi élevé. Tout cela se traduit par un affaiblissement du marché immobilier, des faillites en cours et des conséquences sur le marché financier et bancaire. Devant cette situation intérieure qui continuera de se compliquer cette année, la Chine poursuivra l'augmentation de sa pression militaire concernant ses revendications maritimes vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de Taïwan et des Philippines. Problème à l'intérieur, fuite vers l'extérieur, vieille recette politique. Les économies occidentales vont donc être confrontées à une baisse de leurs exportations en Chine, ce que les entreprises françaises du luxe vivent, ainsi que les entreprises industrielles allemandes. D'un point de vue géopolitique, les risques de heurts en mer de Chine entre navires chinois et philippins, par exemple, ne vont pas rassurer les consommateurs occidentaux. À nouveau, nuages économiques et géopolitiques venant de la mer de Chine.
Gérard, auriez-vous une analyse plus rassurante en ce qui concerne la troisième zone de crise, celle du Moyen-Orient ?
Eh bien, le conflit du Moyen-Orient se déroule, voyez-vous, hélas, par échelons. Aux combats initiaux entre le Hamas et Israël sont venus s'ajouter en deuxième échelon les actions militaires nombreuses des rebelles Houthis yéménites contre les navires circulant en mer de Chine et dans le golfe d'Aden. Donc, hausse des prix du fret dans cette région stratégique et fébrilité sur le marché pétrolier. Maintenant, nous avons un troisième échelon qui se profile avec l'élimination de généraux iraniens en Syrie, probablement, plus que probablement, par l'armée israélienne. Quelles vont être les conséquences ces jours-ci? Le prix du baril est repassé déjà au-dessus des 90 dollars, niveau qu'il n'avait plus connu depuis octobre 2023. Donc, nous avons à nouveau des nuages géopolitiques qui pourront diminuer avec la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais difficile à obtenir, et une fébrilité à nouveau sur le pétrole.
Bref, une synthèse s'impose après ce parcours au milieu de ces trois crises qui agitent notre planète.
Alors, en prévoyant des nuages et leur accumulation en 2024, il devient difficile d'en tirer un pronostic optimiste. En géoéconomie mondiale, il est difficile de chanter sous la pluie, si je puis dire. Je déciderais donc volontiers une année avec un prix du baril autour de 90 dollars. Donc, des prix pétroliers resteront élevés et des baisses d'exportation vers la Chine. En regardant vers l'ouest, l'activité économique américaine se maintient à bon niveau entre 1,5 et 2% de croissance. Et le chômage est au plus bas aux États-Unis. L'inflation restera donc stable autour de 3%. Hélas, trop élevée pour amorcer une baisse des taux d'intérêt. Si la Banque centrale américaine ne baisse pas ses taux, la Banque centrale européenne ne baissera pas les siens en premier. Donc, pas d'amélioration du marché immobilier et de son environnement en Europe. Donc, globalement, une année française et européenne moins facile que l'on pourrait ou que l'on pouvait espérer. Pour les entreprises françaises qui le peuvent, l'export vers l'Europe et les États-Unis doivent être des priorités en termes de développement géographique.
Merci Gérard pour ce panorama géoéconomique. Je vous ai connu plus optimiste, hein, mais il serait surprenant dans votre domaine de le rester toujours, surtout avec les quatre arcs de crise du monde que vous avez identifiés. Eh bien voilà, notre chronique est terminée. Je rappelle à nos auditeurs que vos écrits et interventions médias se retrouvent sur votre site, dont l'abonnement est gratuit. Il faut juste s'inscrire et ce site est www.lemondedécrypté.com. À très vite Gérard pour un nouveau tour du monde, espérons un peu plus positif.
Nous l'espérons. Bonne fin de journée, bonne émission.
Merci, au revoir Gérard.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Vous écoutez bien l'économie en direct sur IDFM Radio avec à mes côtés Michel Jonker, conseiller du commerce extérieur de la France, Jean-François Benon, conseiller du commerce extérieur de la France également, et Sandès Beltaïef, présidente du Cercle Elissa, une association qui œuvre au renforcement des liens entre la France et la Tunisie. Alors, Michel Jonker, depuis plusieurs années maintenant, vous occupez ce poste hein, de conseiller de commerce extérieur
43 ans.
De la France. Je crois même me souvenir que au début où je faisais cette émission, oui. Vous étiez venu en tant que conseiller du commerce extérieur.
Oui, voilà.
Et alors, si j'ai bien suivi, tout comme les 12 travaux d'Hercule, voilà. Il existe 12 préceptes incontournables pour se lancer dans le commerce international et je vous laisse nous les décliner.
Oui, alors
une petite historique.
Avant de dire qui sont les conseillers du commerce extérieur de la France.
Oui, absolument.
Voilà, conseillers du commerce extérieur de la France, nous sommes des entrepreneurs et il y a une forte connaissance à l'international de par notre carrière, de par ce que nous avons fait, de par ce que nous faisons, et qui acceptent de donner bénévolement un peu de temps pour aider d'autres entreprises à se développer à l'international. Nous sommes 4500 dans le monde, nous sommes nommés par le Premier ministre pendant trois ans renouvelables, et nous avons quatre missions, enfin nous sommes organisés dans 145 pays en comité, et un comité extérieur, 2400 à peu près en l'étranger, et le reste en France, et en Val d'Oise, nous sommes une trentaine de conseillers du commerce extérieur de la France.
Oui. Ce qui est un bon chiffre, une trentaine un département.
Pour un département comme le Val d'Oise, bien sûr. Mmh. Et donc, alors, il y a des grands départements où il y a beaucoup de sièges, comme Paris et les Hauts-de-Seine. Mmh. Mais sinon, c'est une bonne chose. À peu près 1500 conseillers du commerce extérieur de la France en France. Nous avons quatre missions. La première mission, c'est de conseiller le pouvoir public. Vous savez qu'en France, c'est un peu catastrophique au niveau exportation. C'est pas que la France n'exporte pas. La France est sixième au monde à exporter. On exporte quelques 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte.
Alors, ça,
notre problème, c'est que ça fait, on a une balance commerciale qui est déficitaire à moins 100 milliards d'euros l'année dernière. Et l'année d'avant, de l'année dernière, il y avait moins 165 milliards d'euros. Ce qui est un peu catastrophique, sachant que nos collègues pays comme l'Italie, par exemple, il y a un excédent commercial de plus de 50 milliards d'euros et l'Allemagne de plus de 100 milliards d'euros. Donc, ils importent beaucoup moins de ce qu'ils exportent. Et donc, voilà, comme conseiller du pouvoir public, quoi faire pour faire en sorte que ce déficit commercial s'améliore et surtout qu'il y ait beaucoup plus d'exportateurs. En France, nous avons relativement très peu d'exportateurs. Sur 4 millions d'entreprises, 4-5 millions d'entreprises, nous avons 145 000 exportateurs. Alors que les Italiens en ont deux fois plus et les Allemands trois fois plus. Et donc, si on veut se développer et faire en sorte que le déficit commercial baisse, il faut exporter. Puis surtout, on va le voir tout à l'heure, l'exportation permet la croissance des entreprises.
Est-ce que, Michel, excusez-moi, vous pourrez nous dire pourquoi, justement, il y a si peu d'entreprises qui exportent
mais
en
c'est,
France
c'est tout le, c'est, oui, alors il y en a un petit peu parce que les Français, je crois, ont peur. On leur dit, oh là là, c'est difficile d'exporter. Je ne vois pas pourquoi c'est difficile d'exporter. Je ne dis pas que c'est facile, mais gérer une entreprise,
c'est pas
une sinécure non plus. Exporter, ce n'est pas plus difficile que gérer une entreprise, qui n'est aussi pas une sinécure. Donc, la France, on le verra tout à l'heure, est très bien fournie et aide beaucoup les exportateurs. Les exportateurs, les entreprises, 145 000, c'est-à-dire moins de 3%, moins de 4% des entreprises exportent. Et même, on dit, la France a perdu son industrie. Mais vous savez qu'au niveau des entreprises industrielles, il y en a 250 000 en France, il n'y a que 10 à 15% d'entreprises industrielles qui exportent. Donc il y a vraiment un problème d'envie d'exporter. Ouais. C'est pas les aides qui manquent, c'est l'envie. D'où essayer d'influencer les entreprises en dire voilà pourquoi il faut exporter, c'est ce que je vais essayer de vous dire. Alors premier conseil au pouvoir public pour essayer d'améliorer les choses.
Oui.
Deuxième mission, c'est l'appui aux entreprises. Alors, l'appui aux entreprises, c'est ce qu'on appelle le parrainage, le mentoring. Nous avons tous la connaissance dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, dans plusieurs produits. Et nous avons notre carnet d'adresses, le nôtre, et celui des 4500 dans le monde. Et puis, nous avons l'entrepreneur par l'entrepreneur. Donc, le deuxième pilier, c'est l'appui aux entreprises. Le troisième pilier, c'est du pré-mentoring, pré-parrainage, c'est la formation des étudiants à l'international. Nous allons dans les BTS, commerce international, dans les licences, commerce, dans les masters, nous intervenons chacun sur notre spécialité, vendre au Japon, vendre en Chine, la négociation, qu'est-ce que l'entreprise dans le monde. Voilà, c'est la formation. Et le quatrième pilier, c'est l'attractivité du territoire, faire en sorte que de faire venir les entreprises étrangères en France pour parce que quand une entreprise étrangère s'installe en France, ça développe l'économie. Donc voilà, très rapidement ce que nous sommes, conseiller de commerce de la France. Alors, la question que vous me posiez, c'est quel produit. Alors, pourquoi avons-nous peur d'exporter? Et pourquoi faut-il exporter? Il y a quatre arguments que j'ai. Premièrement, il est clair, et les données le disent, que les entreprises qui exportent ont en moyenne une croissance deux fois supérieure à celles qui n'exportent pas. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on se donne le maximum de potentiel part de marché. Au lieu d'avoir la France qui représente 1% de la population mondiale, 1,5%, nous avons le monde avec 200 pays. Donc, on ne peut pas exporter dans 200 pays d'un coup, mais on peut choisir les pays et on se donner un maximum de potentiel part de marché. Donc, la croissance est infinie. Le deuxième argument, c'est les entreprises qui exportent ont en moyenne une rentabilité. Quelques points supplémentaires à celles qui n'exportent pas pour une raison bien simple, c'est que quand vous augmentez de par la croissance votre chiffre d'affaires, Vous savez, au niveau des coûts, vous avez deux types de, dans le coût, il y a le coût direct qui est en fonction de matière main d'œuvre, en fonction du nombre de produits que vous faites. Et puis, il y a 70% des autres coûts qui sont des coûts gérés et qui, eux, n'augmentent que par palier, à plus ou moins 10%. Et si vous augmentez votre chiffre d'affaires dans les 10%, ben, vous n'augmentez pas vos frais fixes. Et oui. Par contre, vous divisez vos frais fixes par des quantités supérieures. Parce que et donc, vous diminuez vos coûts. En diminuant vos coûts, vous augmentez votre rentabilité. Ou alors, ça vous permet d'être plus compétitif sur les marchés. Et donc, voilà, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième argument qui est quand même important, exporter, ça permet de, si on peut exporter des produits aussi innovants possible, eh bien, quand vous exportez, vous devenez plus innovant, pas parce que vous l'êtes au début, mais quand vous allez à l'extérieur, vous voyez à l'extérieur des innovations, mais que vous n'avez pas vu à l'intérieur. Ouais. Et ces innovations que vous voyez à l'extérieur, ajoutées à votre propre centre de l'innovation, vous permet d'être plus innovant au total et d'être meilleur maintenant en France, et puis d'être meilleur à l'étranger. Et donc, ça vous permet d'être plus innovant.
Ça permet une ouverture d'esprit plus grande.
Une ouverture d'esprit que vous n'auriez pas si vous... Et le quatrième pilier est souvent méconnu. Vous savez, vous avez dans une entreprise des gens compétents. Les gens compétents ont besoin de faire des carrières. Et si vous développez pas les carrières des gens dans votre entreprise, ben vous les perdez au bout d'un certain temps. Quand vous exportez avec la croissance, vous développez votre entreprise et ça vous permet de donner à vos personnes compétentes des carrières que vous n'auriez pas si vous l'exportez pas parce que vous n'allez pas développer la croissance. Et donc ces gens-là qui seront contents d'avoir des carrières plus intéressantes à l'export, mais non seulement ils restent, mais ça attire d'autres personnes à l'extérieur pour venir chez vous, parce qu'on dit, ben ça, c'est une entreprise où on peut faire carrière. Donc non seulement vous attirez, et puis ça vous permet d'être encore beaucoup plus compétent, parce que vous importez des gens beaucoup plus compétents. Et voilà les quatre notions. Croissance, rentabilité, innovation, et compétence, surtout maintenant, pour attirer les gens compétents, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de métiers en tension. Voilà les quatre arguments. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau? Ben, je dirais qu'il y a quelques vérités qu'il faut dire pour pas faire peur. Parce qu'on dit souvent, pour exporter, il faut un produit en rupture d'innovation technologique.
C'est ce que j'allais vous dire.
Oui, voilà. Un produit en rupture d'innovation technologique. C'est pas vrai. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il y a pas que ça. Tout produit innovant ou banal est exportable. Il faut qu'il soit de qualité. S'il n'est pas de qualité, c'est d'ailleurs, sûr. Vous vendez même pas en France. Et donc, tout produit innovant ou banal est exportable, mais il faut de la qualité, il faut la ferme volonté du chef d'entreprise développé, et puis il faut l'innovation commerciale. Le produit, ça m'amuse, qui s'amuse. Quel est le produit le plus simple au monde? Ben, c'est l'eau. Vous allez en Chine. En Chine, il y a des chutes d'eau partout, il y a des sources d'eau partout. Ben, les supermarchés sont remplis d'eau d'Évian qui vient de France. Et au Japon, l'eau Volvic. Et comment ils font? Quand vous prenez la bouteille de Volvic au Japon, vous regardez, ben, il y a le drapeau français derrière, ils vendent la France. Et donc, c'est pas le produit. C'est la marque, c'est la volonté de se développer, et c'est surtout le fait qu'il y a sur place. Vous ne pouvez pas exporter si vous n'avez pas quelqu'un sur place qui aime votre produit, qui veut le développer, qui connaît la culture. Et donc, ne vous inquiétez pas, tout produit à partir de... On regarde...
Oui, mais alors, Michel, oui, excusez-moi, vous citez l'exemple de l'eau, mais vous citez quand même Evian et Volvic, donc des marques importantes.
Ah ben oui, mais il faut le travailler,
Marc. Il y a certainement des entreprises qui ont peut-être envie d'exporter, mais justement n'ont pas le sentiment d'avoir le produit qu'il faut pour...
Mais parce qu'ils ont peur, parce que tout... Alors, l'idée, on se dit aussi, pour exporter, il faut exporter dans des pays en forte croissance, au début. Ben moi, je dis, c'est pas vrai, parce que, enfin, c'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que les pays en forte croissance, il y a toute la compétition mondiale. Non, il vaut mieux essayer de trouver plusieurs pays, quelques pays, où il n'y a pas la compétition mondiale. Et là, vous commencez à vendre un produit. Mais si vous avez sur place un distributeur ou un agent qui aime votre produit, parce que c'est un produit français, parce que, eh bien, il va vous le développer.
C'est la réputation.
Il va vous le développer. Et quand vous commencez à développer ce produit dans certains pays qui ne sont pas les très grands pays, après, vous pouvez aller dans les pays en France croissante parce que vous avez développé la marque, parce que vous êtes habitué à exporter. Donc, évidemment, ça se prépare l'exportation. Si vous avez un produit qui n'est pas connu, eh bien, soit il faut le faire connaître par le distributeur local, par l'agent local, et puis qui lui connaît bien la culture. Et mais il y a, moi, l'autre jour, j'étais en Antarctique, un bateau.
Ah, mais vous n'arrêtez pas.
Oui, voilà, un tapis sur un bateau. Pardon?
Vous étiez en Jamaïque aussi, il n'y a pas longtemps.
Oui, aussi. Mais là, j'étais en Antarctique sur un bateau. Et le matin, on prenait un petit déjeuner. Et puis, je vois sur la table de la confiture. Et je regarde, c'était la confiture qui venait des Yvelines. En Antarctique.
Ah là là, formidable.
Voilà, la confiture. Alors, je suis revenu, j'ai dit au fabricant de la confiture, j'ai vu ton... Il m'a dit, ben oui, on a un distributeur local qui adore ça et qui vend à la société, dont je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas faire la publicité. Voilà, et donc, de la confiture, il y en a dans le monde entier. Ouais. Et bien, si c'est trouvé, la confiture des Yvelines, sur mon petit déjeuner dans l'Antarctique. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de produits non exportables, mais il faut que derrière ou devant, il y ait quelqu'un qui soit là pour faire du développement local.
Merci Michel, je vous coupe la parole parce qu'il faut faire une pause musicale et on reprend ce débat passionnant dans quelques minutes. À tout de suite. Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct consacrée ce matin à ce levier de croissance qu'est le commerce international. Mes invités, Michel Jonker, past président du MEDEF Val d'Oise, membre élu de la CCI Paris-Île-de-France et Val d'Oise, conseiller du commerce extérieur de la France. Sandès Beltaïev, maire adjointe de Bezons en charge des finances, présidente, je l'ai dit, désolée, présidente du Cercle Elissa, une association qui œuvre au renforcement des liens entre la France et la Tunisie. Et Jean-François Benon, bonjour Jean-François.
Bonjour.
Donc directeur général du CEVO France, et enfin du CEVO, et également conseiller du commerce extérieur de la France. Donc, merci d'être avec nous,
merci
Jean-François.
Merci de nous accueillir, merci.
Alors, Michel, on continue avec vous sur tous les principes du commerce international. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire?
Oui, alors, ce que j'ai d'autre à dire, c'est les quelques vérités, comme on dit. Alors, je répète, le produit nouveau en banane est exportable.
Oui.
Il faut la qualité.
On a compris.
Sans qualité, vous ne faites rien. Autre chose, on dit... Et c'est complémentaire ce qu'on dit, il faut un produit en rupture d'innovation technologique, parce que il y a des gens qui sont en rupture d'innovation technologique. Si vous êtes en rupture d'innovation technologique avec d'autres entreprises qui sont aussi en rupture sur le même produit, vous avez une concurrence terrible. Ça ne veut pas dire que vous réussissez mieux que si vous vendez un produit banal dans un pays qui ne connaît pas votre produit et qui veut vendre français. Alors, autre chose aussi, on a peur. Il est dit, il faut avoir une taille critique, c'est pas vrai. Dans les 145 000 entreprises qui exportent, il y a 100 000 TPE. On se rend pas compte de ça. Oui. Et donc, bien évidemment, il faut être organisé correctement. Mmh. Bon, mais il n'y a aucun problème, quelle que soit la taille. Quand il y a la volonté du chef d'entreprise à se développer, tout est possible. Et donc, on est ici pour essayer de sensibiliser les chefs d'entreprise, de dire, chef d'entreprise, n'ayez pas peur. Vous avez un produit, vous voulez le développer, on va vous aider. Et un peu plus tard, je vous expliquerai comment on va vous aider par les conseillers commerciaux extérieurs, mais aussi, si on a deux minutes, on va parler de la Team France Export, l'équipe de France de l'export. Ça, c'est le deuxième, quelle que soit la taille. Je ne sais pas parler les langues. Les Français ne savent pas parler les langues. Il y a des interprètes partout. Partout.
D'accord.
Mais il suffit d'aller dans un salon.
La langue n'est pas un problème.
Oui. Il suffit d'aller dans un salon, on vous propose des interprètes, en général, c'est des étudiantes, qui parlent la langue du pays, votre langue ou l'anglais. Évidemment. Vaut mieux parler anglais, au moins pour voyager. Mais moi, j'ai exporté dans 65 pays, je parle pas 65 langues. Et on s'est développé, et on a vraiment... Donc, n'ayez pas peur, il y a des interprètes partout. Et puis alors, la meilleure façon... Mais je sais pas où trouver les clients. Eh bien, il n'y a pas une façon... Si les clients ne savent pas où aller les chercher... Faites-les venir vers vous. Et pour les faire venir vers vous, c'est quoi? Ben, c'est les salons. Les salons spécialisés. Vous allez dans votre produit. Alors, vous allez dans n'importe quel pays. À quoi ça sert? Ça sert, exposer dans les salons spécialisés, ça sert à faire venir des gens qui aiment votre produit et qui veulent les développer. En général, vous avez, dans un salon, ça dure 3-4 jours. Et vous avez, sur une cinquantaine de salons, j'ai fait une analyse. Il y a à peu près, en 4 jours, 45 personnes qui viennent vous voir. Il y a surtout des gens qui aiment votre produit, vous les analysez, et puis quand vous avez terminé le salon, vous avez votre distributeur et vous avez votre agent qui va développer votre produit sur place. Après, il faut suivre. Parce que comment suivre les commandes qui arrivent?
Une des choses
que je faisais, moi, ou qu'on peut faire, c'est d'utiliser des étudiants BTS en commerce international qui font des stages et qui vous leur dites, cette partie de clientèle, vous la prenez en charge et puis si vous avez un problème, venez voir. Et donc, il faut, parce que si on fait un salon, si on a un distributeur, un agent et on répond pas à ces demandes, ça sert à rien.
Bien sûr.
Et on perd son temps.
On est d'accord.
Et donc,
vous êtes en train de nous donner le mode d'emploi parfait.
C'est un mode d'emploi. Et donc, c'est les Allemands qui, eux, sont les chantres de l'exportation. Ils disent, vous savez pourquoi on réussit à l'exportation? On réussit pour trois raisons. D'abord, le Made in Germany. Alors, Made in Germany, on travaille un produit allemand parce que c'est Made in Germany, automatiquement de meilleure qualité, même si c'est pas vrai, mais dans la tête des gens, c'est meilleur. Ben, nous avons le Made in France.
Oui.
Et moi, j'ai vendu des produits dans le monde entier, Made in France, bleu, blanc, rouge, parce qu'il faut pas laisser on est très bien vu dans le monde entier. Deuxième point. Le deuxième argument, nous perfectionnons le banal, disent-ils. Nous perfectionnons le banal, ça veut dire faire apparaître à l'étranger un produit souvent banal chez soi. Par exemple, on parle souvent la coutellerie scandinave. Ah, c'est merveilleux, c'est design. Mm-hmm. Et donc on achète en France. Sauf que les Suédois, les Scandinaves, eh ben ils utilisent ça tous les jours. Ils sont arrivés à faire apparaître à l'extérieur un produit banal chez eux. Ou alors, comme dit, nous perfectionnons le banal, on prend un produit, on l'adapte en fonction du milieu. Alors, il faut évidemment s'adapter. On peut pas vendre un produit comme ça, d'une culture française, sans essayer de mettre la culture du pays dedans. Donc, nous perfectionnons le banal. D'ailleurs, en parlant de coutellerie, vous savez que au XVIe siècle, ben les gens mangeaient avec les mains.
C'est la Renaissance.
Et donc à la cour de France, Catherine de Médicis arrive et dit : c'est quoi cette façon de manger avec... Regardez ce que je vous apporte d'Italie. Elle apportait la fourchette et c'était un produit d'une grande innovation qui est devenu banal. Donc tout produit, je dirais banal, est innovant à ses débuts. Et voilà, donc c'est les quatre. Tout produit innovant banal, mais de qualité est vendable, quelle que soit votre taille, mais il faut s'organiser. Il y a des interprètes partout, et surtout, faire des salons. Dans les salons, c'est pas tellement pour avoir des clients directs, mais avoir des agents et des distributeurs. Et je recommande d'ailleurs que dans certains salons, il faut surtout aller dans le hall de son propre produit, où les gens qui aiment votre produit sont tous là, même avec vos concurrents, et ça vous permet de connaître les gens. Donc ça, c'est les quatre vérités, oui.
Oui, Michel, je voudrais vous poser une question avant qu'on fasse une nouvelle pause. Combien de temps, à partir du moment, on a bien compris hein, l'importance des salons, vous dites qu'il y a 45 personnes qui vont venir en 4 jours, on récupère combien de clients sur ces 45 à peu près, quel pourcentage ?
Sur ces 45, on récupère surtout les agents et les distributeurs des pays.
D'accord.
Et quand vous allez dans certains pays comme l'Allemagne, où il y a des salons partout, ce ne sont pas que les Allemands qui viennent, c'est le monde entier qui vient. Et vous pouvez récupérer un agent du Pakistan, un agent de l'Inde, distributeur, en faisant un salon en Allemagne ou ailleurs. D'accord. Et donc
tout
plus
l'intérêt.
Vous faites de salons, plus vous êtes en contact avec les gens qui sont intéressés par votre produit, et plus vous allez, et puis après ça fait boule de neige. Par exemple, j'étais au Japon un jour pour un salon automobile, et il y a mon distributeur de Corée que j'avais eu 15 jours auparavant qui me téléphone et il me dit vas-y, je suis au Japon. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je suis à la recherche d'un agent au Japon. Il me dit, mais j'en ai un. Et de Corée, il a téléphoné à son copain japonais qui est venu me voir, et voilà, en dehors du salon, il est devenu mon agent pendant 10 ans. Voilà, donc ça fait boule de neige. Donc
alors,
c'est important.
Oui, je comprends. Une autre question, à partir du moment où une entreprise décide de faire de l'export, quel temps moyen faut-il pour qu'elle
Je dirais qu'il n'y a pas de règles. Si vous allez au Japon, et Jean-François Benoît, c'est un expert du Japon, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut de la persévérance. Si vous allez dans un pays, vous y allez un coup, et puis vous laissez tomber, vous ne ferez rien. Le Japon, c'est 2-3 ans, quoi, je veux dire. Mais il y a des pays assez proches qui sont beaucoup plus... Il n'y a pas de règle. D'accord. Mais il faut avoir la persévérance. Il faut avoir la persévérance où on veut. Alors, on commence par exporter dans les pays autour de soi. Et puis après, on a de plus en plus. Monsieur Vespierre parlait des États-Unis. Mais il y a 200 pays au monde, donc il n'y a aucun pays, aucun produit, aucun problème pour se développer dans 100 pays. Alors, on peut dire, qui va vous aider? Alors, qui va vous aider? Au-delà des conseillers du commerce de la France, nous sommes des liants un peu, des go-between. Il y a ce qu'on appelle la Team France Export, je tiens à le dire.
Oui.
Et la Team France Export était organisée par le gouvernement. Et il y a, premièrement, ce qu'on appelle Business France. Et Business France, c'est un organisme d'État qui sont un peu dans la plupart des pays au monde, et dans les ambassades, et qui sont là pour ouvrir et pour aider les entreprises à avoir des contacts locaux.
D'accord.
Et donc, d'abord pour expliquer les produits et la culture du pays. Et puis, si vous allez dans un pays, Business France va vous organiser des rendez-vous. Et ces rendez-vous-là vous permettent en dehors des salons. Il va aussi vous permettre de faire des salons. Ça, on peut en parler tout à l'heure. Et donc, on dit, j'ai pas d'argent. Alors, je ne sais pas où trouver les clients, les salons et Business France, je n'ai pas d'argent. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la Banque publique d'investissement, la BPI. Et la BPI est là pour aider les entreprises à financièrement. Et ensuite, la BPI fait une chose tout à fait exceptionnelle aussi, qui est en France et nulle part, ce qu'on appelle l'assurance prospection.
Ah oui.
Et l'assurance prospection, quand vous n'avez pas d'argent pour vous les développer dans un pays, vous, dites, ben, vous faites un budget sur 2-3 ans, mettons, vous voulez vous développer dans un pays où il n'y a pas la guerre, et vous faites un budget sur 2-3 ans de 300 000 euros. Eh bien, la BPI vous avance 60% de la somme que vous ne remboursez que si vous réussissez. Si vous réussissez pas, vous remboursez 30%, mais pas 100%.
D'accord,
avant,
d'accord.
C'était gratuit, mais maintenant, oui, c'est quand même 30%.
Oui.
Et donc, c'est très important avec la BPI qui vous finance et l'assurance prospection. Et puis, il y a aussi une chose intéressante en France, c'est que vous pouvez utiliser, parce que vous dites, si j'ai un directeur comme ça, ça va me coûter très cher au début. Eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les VIE, volontaires internationaux en entreprise. Et ces VIE, ce sont des étudiants, enfin des étudiants, des ex-étudiants qui viennent juste de terminer leurs études, et quel que soit le diplôme d'ailleurs, et que vous pouvez embaucher pendant jusqu'à 2 ans et en ayant, je dirais, un contrat tripartite entre Business France, l'entreprise et le VIE. Et donc, les salaires, ce sont des salaires qui sont fixés en fonction des pays, qui sont pas du tout les salaires d'un directeur commercial, mais l'intérêt de ça, c'est que ça permet au VIE de se faire une bonne expérience et à l'entreprise de pouvoir utiliser sans trop dépenser une personne qu'on envoie dans le pays et qui permet de développer le pays. Actuellement, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une nouvelle façon de faire, ça s'appelle le volontariat territorial en entreprise, où vous pouvez, normalement, un VIE doit aller à l'étranger. Il reste un mois en France pour analyser, il va à l'étranger. Mais le nouveau système de volontariat territorial en entreprise, qui a été développé par le gouvernement depuis le mois d'octobre dernier, c'est un dispositif d'aide à l'embauche pouvant aller jusqu'à 12 000 euros, plafonné à 50% des dépenses liées à la mission, soutenir des entreprises en France. Donc, vous avez quelqu'un qui travaille en France et qui vous aide à vous développer à l'étranger. Donc, ces systèmes-là de VIE, de volontariat territorial d'entreprise, sont très, très utiles pour travailler sur un pays nouveau. Voilà, donc
Merci Michel, il faut que je vous coupe la parole, j'ai bien compris que vous pourriez nous en dire encore beaucoup plus, vous êtes incollable, mais bon voilà, on fait une nouvelle pause et puis je donne ensuite la parole à nos deux autres invités, à tout de suite.
Quand la nuit noire s'effondre sur nos blêmes paupières, quand le malheur s'obstine à nous botter les fesses, quand la lueur du jour nous offre un brin d'amour.
J'ai foi en vie céleste, j'ai foi en l'être humain, j'ai foi en l'amitié, en la poignée de main. J'ai connu tes rafales et tes monstres blafards. Mais j'ai caché dans le placard tout un tas de chagrins. Je m'en suis lavé les mains et tout ça montre en un. Je t'ai remis à demain, je m'en suis créé tout un. Tout un tas de copains, tout un tas de copains.
Le sommet dans ta peau, il est si infiltré que tout te rend accro, que le nif a gagné.
Y'aura plus de chagrin, l'honneur est à chacun.
Et l'horloge nous étrangle et l'horloge enfin hurle. T'en as plus de patience, ainsi le temps s'amuse.
T'attends nos petites morts et nous en revenus.
Mais j'ai caché dans le placard tout un tas de chagrins. Je m'en suis lavé les mains et tout ça montre en main. Je t'ai remis à demain, je m'en suis créé tout un tas de copains.
Thank you.
sa montre en main. Je t'ai remise à demain. Je m'en suis créé tout un tas de copains. Mais j'ai caché dans le placard tout un tas de chagrin. Je m'en suis lavé les mains et tout ça montre en main. Je t'ai remise à demain. Je m'en suis créé tout un tas de copains.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, experts et expertes du commerce international sont à mes côtés, dont Michel Jonker, conseiller du commerce extérieur de la France, Jean-François Benon, également conseiller du commerce extérieur de la France, et Sandès Beltaïef, présidente du Cercle Elissa. Jean-François Benon, merci d'être à nos côtés. Alors le CEVO a son siège, vous êtes également, enfin je l'ai dit en introduction, vous êtes également directeur général bien sûr du CEVO. Et le CEVO a son siège à Cergy-Pontoise, mais il est présent aussi dans l'aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle, à Osaka au Japon et à Shanghai en Chine.
Absolument.
C'est dire que d'emblée, vous vous positionnez sur cette dimension internationale.
Oui, ben, je crois que c'est simplement intrinsèque aux caractéristiques du département du Val-d'Oise. Le Val-d'Oise est un département qui a beaucoup d'atouts pour l'attractivité dans les signes extérieurs qui font que le Val-d'Oise est attractif. Il y a effectivement cette histoire d'ouverture à l'international qui est liée à la localisation du Val-d'Oise au nord-ouest de la région parisienne et surtout au fait que le Val-d'Oise accueille les deux plus grands aéroports européens, à la fois pour le nombre des passagers, l'aéroport Charles de Gaulle, qui est aujourd'hui le premier aéroport d'Europe continentale pour le nombre des passagers accueillis, et puis l'aéroport de Paris-Le Bourget, qui est le premier aéroport d'Europe pour l'aviation d'affaires. Donc on a effectivement une caractérisation du Val-d'Oise sur cette ouverture, une sorte, le Val-d'Oise, c'est ce que les Américains appellent un gateway, c'est-à-dire une porte ouverte sur le monde, à la fois à l'accueil, à la fois en réceptif et à la fois en projection. Donc le fait même que le Val-d'Oise soit cette porte d'entrée ouverte sur le monde, et je dirais même très souvent la porte d'entrée non seulement de Paris, non seulement de l'Île-de-France, mais de toute l'Europe aujourd'hui. Mm-hmm. Quand un Japonais ou un Chinois pense à venir en Europe, l'aéroport Charles de Gaulle est souvent le choix numéro un. Ça peut être Francfort, ça peut être Rome un petit peu moins, ça peut être Londres, mais c'est plus l'Europe communautaire, évidemment, ça peut être Madrid, mais Paris s'impose assez naturellement. Donc en réalité, nous sommes la porte d'entrée ou de sortie vers l'extérieur de la plupart des pays du monde, de tous les pays du monde, puisque à partir de l'aéroport Charles de Gaulle, on peut aller partout dans le monde, on a en plus la gare TGV à l'intérieur, donc on est dans un hub des échanges internationaux, et ça fait partie de l'ADN de notre département. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, historiquement, nous avons, en tant qu'agence de développement du département, une sensibilité à l'international. Michel Jonker l'a sans doute dit, mais on a aussi des caractéristiques chiffrées. Le Val-d'Oise, qui est un département qui représente 7% de la richesse économique de l'Île-de-France, en réalité, est le numéro 3 et le deuxième département en Île-de-France pour le niveau de le montant des échanges commerciaux à l'international.
Oui, c'est 17%.
Ça. Voilà, donc 7% du PIB et 17% des échanges internationaux. Voilà. Donc on voit bien que la part du Val-d'Oise à l'international est par nature importante. Donc nous sommes calés évidemment par rapport à ces caractéristiques pour vendre notre métier, c'est de faire ce qu'on appelle du marketing territorial. Mmh. On est financé à la fois par la région, par le département et par d'autres intercommunalités pour faire la promotion de notre territoire, pour y attirer des investissements, des projets, des entreprises françaises et étrangères, évidemment. Et donc, naturellement, cette composante internationale, elle est encore une fois, elle fait partie de l'ADN de notre territoire. Et on en est très fiers parce que c'est un élément totalement différenciant par rapport à d'autres territoire, y compris d'ailleurs au sein de l'Île-de-France. On nous parle toujours du plateau de Saclay, de tout un tas de zones en Île-de-France qui sont extrêmement dynamiques sur le plan technologique. Nous, on a des caractéristiques que nos amis de Saclay n'ont pas. Quand on est à Saclay, on n'est pas trop loin et encore de l'aéroport d'Orly. Mais enfin, c'est pas simple.
C'est pas ça.
Quand on connaît les problèmes de circulation en Île-de-France, alors que le Val d'Oise, une entreprise qui s'installe dans le Val d'Oise, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, on va dire vraiment qu'elle est ouverte sur le monde par nature. Et c'est un des arguments que l'on utilise et qui réussissent. Alors, on est effectivement présents, nous, physiquement, historiquement, à Osaka. Pourquoi le Japon? Parce que le département du Val d'Oise a noué des liens historiques avec le Japon depuis 1987. Il y a énormément d'échanges depuis 1987 entre le Val d'Oise et la préfecture d'Osaka. Et à partir de ça, le CEVO, dès 1987, a été chargé par le département d'assurer un travail de promotion économique au Japon, avec un certain succès, puisque aujourd'hui, c'est une soixantaine de sociétés japonaises qui sont installées dans le Val d'Oise, et on continue à en installer en permanence. On a installé, là, il y a quelques mois, quelques semaines, ils sont en train de terminer leur installation, la société Sanyo Denki, qui a ouvert une usine à Goussainville pour faire des servomoteurs. On a, il y a un an, la société qui s'appelle Nisha Medical Technology, qui s'est installée à Cergy avec une petite unité de production et son siège social France pour faire du matériel médical connecté. Et en ce moment, et ça a été dit l'autre soir quand nous étions à la soirée des conseillers du commerce extérieur, on accompagne la société Daito Kasei, que nous avions installée il y a 7 ans ou 8 ans dans le Val d'Oise, qui a fait une très belle usine d'ailleurs à Frépillon, qui a prévu de doubler la taille de son usine et qui prévoit, et c'est une très bonne nouvelle, d'installer en 2025 son centre de R&D pour l'Europe, dans le Val d'Oise, et qui vient de négocier un nouveau terrain pour construire ce très très beau centre de R&D. Et ça, c'est un exemple type. Cette société est arrivée il y a quelques années avec juste un bureau de représentation qui était à Taverny. Ensuite, ils ont décidé, avec notre aide, on les a aidés à trouver un terrain de construire une usine à Frépillon, et maintenant, quelques années après, ils en sont à la création du centre de R&D européen.
Vous êtes en train d'illustrer tout ce que Michel Jean-Pierre vient de dire.
Là, on parle de l'implantation. On a aussi, on peut prendre l'exemple inverse.
Jean-François, juste pour Frépillon, ça doit être une opportunité incroyable.
La commune de Frépillon est très heureuse. C'est la société Daito Kasei. Ça a été la première entreprise que nous avons installée dans cette nouvelle zone d'activité qui s'appelle la zone d'activité des Épineaux à Frépillon. L'ancien maire de Frépillon, qui est toujours très actif dans ce dossier, qui est Bernard Tailly, avait été courageux. Il avait décidé de faire un nouveau parc d'activité, mais il fallait évidemment lancer le parc. C'est toujours la première entreprise qui est la plus difficile. Et le CEVO lui a amené le contact avec la société Daito Kasei. Et je reconnais que Bernard Tailly, comme toujours, a été extrêmement dynamique. Il a pris le dossier à bras le corps. C'était pas facile, parce qu'il y avait des tas de réglementations. Quand on est la première entreprise, on essuie les plâtres. Et il y avait les réglementations sur la loi sur l'eau, les problèmes de fouilles archéologiques. Il y avait tout un tas de contraintes. Les Japonais en ont bavé un peu, il faut bien le dire. Mais enfin, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe le mieux possible. Et l'entreprise est tellement contente d'être à Frépillon. Elle a été la première à implanter à Frépillon dans ce nouveau parc d'activité, qu'elle a décidé d'y rester. Et son développement, elle a pris un nouveau terrain, pas à côté, pas très loin de l'ancien, pour faire son centre de R&D dans le Val d'Oise, à Frépillon. Voilà. Dans l'autre sens, pour illustrer les propos de Michel Jonker, le rapport avec le Japon, c'est aussi aider des entreprises du Val d'Oise à aller s'internationaliser et aller au Japon, qui, Michel l'a dit tout à l'heure, n'est pas un marché facile d'accès. Il faut beaucoup de courage.
Beaucoup de patience.
Patience, de fidélité. Mais enfin, on y arrive. Et j'ai on peut vous donner, nous, beaucoup d'exemples concrets de réussite. Je vais en prendre un parce qu'il est totalement illustratif, et puis on l'a accompagné. Une très belle entreprise du Val d'Oise, une ETI qui s'appelle Vigon, qui est située à Écouen, qui est spécialisée dans la fabrication des matériels médicaux, qui est une entreprise internationale par nature. Ils n'étaient pas au Japon, ils n'avaient pas de filiale au Japon. Et il y a quelques années, le PDG, Monsieur Regnault, nous a dit, bah voilà, j'ai envie de créer une filiale au Japon. Bon, on s'est mobilisé à ses côtés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, lorsque le gouverneur d'Osaka, qui était Monsieur Hashimoto à l'époque, est venu visiter le Val d'Oise, on a organisé une sorte de guet-apens. On l'a amené visiter la société Vigon, évidemment, à Écouen. Il a été impressionné par ce qu'il a vu de cette entreprise qui est magnifique, très très haute technologie. technologie dans le domaine médical. Il a donc apprécié beaucoup cette entreprise et le président lui a dit, vous savez, monsieur le gouverneur, je réfléchis à aller au Japon et pourquoi pas Osaka, etc. Le gouverneur lui a dit, bah, écoutez, on vous attend, vous êtes le bienvenu et on fera tout pour vous aider. Voilà. Nous, notre bureau sur place s'est mobilisé. Monsieur Regnault a confié à notre correspondant sur place il nous a mandaté pour aller trouver des locaux. C'est notre bureau qui avons trouvé les locaux à Osaka. Il a demandé à notre bureau à Osaka de recruter les 4 ou 5 premiers salariés. Et c'est le directeur de notre bureau qui a fait ça, monsieur Yoneda à l'époque. Et puis, l'entreprise s'est implantée. Ensuite, la préfecture s'est mobilisée pour obtenir les agréments, parce que pour vendre du matériel médical français au Japon, il faut effectivement avoir beaucoup d'agréments et d'autorisations japonaises. C'est pas simple. Mmh. Et là, le fait que le gouverneur soit venu visiter l'entreprise, il a fait tout ce qu'il pouvait. Pas pour faire un passe-droit, mais pour accélérer, les process réglementaires. Et aujourd'hui, je peux le dire, et on peut le vérifier avec nos amis de Vigon, la filiale japonaise de Vigon est un magnifique succès. Cette entreprise valdoisienne a percé au Japon et sa filiale japonaise marche très très bien.
On pourrait prendre un guet-apens qui a donc très bien marché.
Voilà, oui, mais ça c'est notre métier. On est toujours dans l'agilité pour trouver des moyens. On a fait la même chose en Chine où on a ouvert notre bureau en 2005 et nous avons les mêmes types de... Je prends deux exemples, je veux toujours être un peu illustratif. On vient d'installer il y a quelques semaines une nouvelle entreprise chinoise dans le Val d'Oise juste à côté de Beson, à Argenteuil, qui fait des cosmétiques, la société Bequet. Pour vous raconter l'histoire, c'est une entreprise qu'on avait rencontrée à Shanghai 11 ans plus tôt. Donc il y a 11 ans, avait visité cette entreprise. On fait de la prospection. Quand on va en Chine, on a toute une liste d'entreprises qu'on va visiter.
D'où cette persévérance dont parle Michel.
Il faut de la persévérance. Oui. Non, mais on fait des métiers qui sont dans le long terme.
Oui, c'est ça.
La fidélité, la régularité, la confiance. Absolument. Et en Asie en particulièrement, naturellement. Et donc, on avait dans notre programme, il y a 11 ans, lors d'une mission que nous avions organisée en Chine, été visiter la société qui s'appelle Bequet, B-E-U-K-A-Y, qui est une très belle société de cosmétiques en Chine. Et ils nous avaient reçus gentiment, mais à l'époque, ils n'avaient pas de projet immédiat de venir en France, mais ils avaient été adorables. Le président nous avait invités à dîner, on avait visité le showroom, l'usine, etc. Bon. Et puis, le temps est passé, on est resté en contact avec eux. On entretient ces relations au fil des années. Et puis, un beau jour, on a appris que, pardon, notre bureau à Shanghai, que cette entreprise avait un projet de s'installer en Europe. Ils ont commencé, il faut être honnête, là on n'a pas gagné la première manche, ils ont commencé par installer un petit bureau de représentation à Toulouse, parce que le directeur qu'ils avaient recruté était de ce
Toulouse,
secteur, donc
ouais,
ils ont implanté une première filiale à Toulouse. On n'a pas gagné, c'est pas nous qui l'avons gagné, mais quelques années après, à partir de l'expérience qu'ils ont eue à Toulouse, ils ont décidé d'ouvrir une usine pour travailler pour le marché européen, et notamment ils travaillent pour des grands noms de la cosmétique, ils font de la sous-traitance pour des, y compris des grandes marques françaises d'ailleurs, parce qu'on critique les Chinois, mais ils sont aussi, ils viennent en France aussi pour travailler pour des marques françaises, il faut bien le dire. Mais ils fabriquent en France, c'est ça qui est intéressant.
Oui,
et puis
oui,
il y a une raison et pourquoi ils font ça, parce que c'est le made in France, et que quand on a un produit fait par une société chinoise qui est fabriqué en France, il repart avec le made in France, c'est pas totalement neutre quand même.
Bien sûr.
Et donc cette société nous a annoncé qu'elle avait un projet de faire une usine. On s'est mis au travail. On les a reçus à plusieurs reprises. On a visité plusieurs sites dans le Val d'Oise. On leur a proposé le bassin d'Argenteuil-Beson. On leur a proposé Cergy-Pontoise. Ils ont visité avec nous des tas de sites. Et ils ont fini par décider de prendre un bâtiment qui existait à Argenteuil. Et donc, ils sont en train d'installer les machines. Et cette entreprise, donc, s'installe à Argenteuil. Elle vient rejoindre la liste des sociétés chinoises qui ont fait le choix du Val d'Oise. Nous avions l'autre soir comme témoignage une très belle entreprise qui s'appelle Broad Air Technology, qui fait des systèmes très très importants de refroidissement de l'air dans les bâtiments, de climatisation mais industrielle et pour les hôpitaux, les hôtels, etc. Cette société chinoise a fait le choix de s'installer à Cergy-Pontoise. Elle a mis son siège européen et à partir du Valois, voilà. Et dans l'autre sens, je peux vous citer énormément d'entreprises du Val d'Oise, et on en a qui réussissent remarquablement en Chine, qui ont développé des usines usines. Je pense à Bernard Controls, qui a une super usine du côté de Pékin, que vous connaissez. Je pense à nos amis Mekainox, qui ont également une usine, et puis d'autres. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est ça la réalité des échanges internationaux. C'est à la fois le côté, et c'est pour ça que d'ailleurs que Business France a été décidé, il a été décidé par l'État qui ferait les deux métiers. Il ferait l'attraction, ce qu'on appelle l'invest, c'est-à-dire accueillir des investisseurs étrangers en France, et ils font également l'export, l'accompagnement à l'export. Bah, nous, modestement, à l'échelle du Val-d'Oise, avec nos collègues de l'Agence régionale de développement Choose Paris Région, on fait un peu la même chose. On est à la fois des réceptifs et on est payé pour faire venir des entreprises investir dans le Val-d'Oise, et c'est quelques exemples que je venais de vous donner. Et on est également, bien sûr, une fois que les entreprises sont devenues partie prenante du Val-d'Oise, on les accompagne dans leur développement en général, et notamment dans leur développement à l'international.
Jean-François, à côté de nous, enfin à côté de vous, il y a Sandès Beltaïev, du président du cercle ELISA, qui favorise les relations entre la Tunisie et la France. Est-ce que ce genre de rencontre peut vous intéresser?
Toujours, parce que le Val d'Oise a une richesse humaine qui nous intéresse énormément et que l'on met à profit. C'est que nous sommes un territoire ouvert sur le monde, dans laquelle les cultures, l'interculturel et les cultures des pays étrangers et sont très présentes. On a des diasporas dans notre département. On a une très belle des diasporas asiatiques avec des communautés d'origine des pays du sud-est asiatique, notamment le Vietnam. On a évidemment une très belle diaspora de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et qui sont très présents, et avec des structurations de clubs d'affaires aujourd'hui, avec des jeunes issus de ces pays qui vivent en France, travaillent en France, sont français pour beaucoup d'entre eux, mais qui n'ont pas oublié leurs racines et qui font du business, pour parler clair, avec leur pays d'origine. Et c'est très précieux, parce que Michel l'a dit, dans le commerce extérieur, l'une des clés, au-delà de toutes les techniques qu'on apprend dans les livres ou dans les écoles, c'est l'interculturel. C'est cette capacité à comprendre son interlocuteur, à se mettre à sa place, à faire du contact, à s'adapter et avoir la curiosité de connaître la culture de celui ou de celle avec lequel on va faire du business. Et donc, toutes ces structures, là, c'est l'Afrique du Nord, évidemment, on a une communauté marocaine, nos amis de la Chambre de commerce, Pierre Cuchely aujourd'hui doit être au Maroc en train de travailler sur un projet de mission auquel on est associé aussi avec différents partenaires. Donc on a une communauté marocaine qui est très, très puissante et très dynamique, d'origine marocaine qui est très puissante, très dynamique dans le Val-d'Oise. On a des Asiatiques, on a des Américains, etc. Donc pouvoir s'appuyer sur ces structures, ces associations qui sont là pour favoriser des connexions entre différents pays, bah oui, évidemment c'est un atout formidable, parce encore une fois, on peut faire, nous, tout ce qu'on veut, on peut mettre en place des process de promotion, des campagnes de communication, tout ce qu'il faut faire, évidemment, des sites internet, des missions, des relations, d'accueil de délégations, ce qui nous occupe beaucoup, nous, c'est bien, mais à un moment donné, encore une fois,
faut passer dans le dur.
Le commerce international, les échanges internationaux au sens large, culturel, sportif, économique, c'est d'abord des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui apprennent à se connaître, et donc toutes ces structures qui permettent de faire du lien sont vitales pour la réussite de ce domaine.
Et on comprend que vous y réussissez très très bien, Jean-François. Je voudrais quand même donner la parole. Alors, simplement, une minute, Michel, je voudrais vraiment donner la parole à Sandès.
Simplement une seconde pour conclure et faire la synthèse de ce qui a été dit entre l'export, l'attractivité des territoires et les implantations locales, les implantations intérieures. C'est deux chiffres intéressants. Le Val-d'Oise participe à l'augmentation du commerce mondial. Savez-vous que le volume du commerce mondial depuis 1950, au début du GATT, 1950-2022, a augmenté de 4300%, 43 fois plus élevé qu'en 1950. Ça, c'est le volume. Et la valeur du commerce mondial est aujourd'hui près de 347 fois supérieure à celle de 1950. Et donc, il y a une explosion énorme du commerce mondial, et la Val-d'Oise participe à cette, et participe très bien d'ailleurs, à cette explosion, à cette amélioration. C'est ça que je voulais dire.
Merci Michel pour ces précisions. Alors Sandès, on va pas faire de pause parce que je voudrais vraiment que vous preniez la parole. Ce cercle ELISA, comment est-il né ?
Alors, le cercle Elissa, il est né il y a un an avec le soutien de l'ambassade tunisienne en France. Donc, il a vraiment travaillé. Donc, on a travaillé donc à la structuration d'un réseau d'acteurs qui soit institutionnel et économique de la diaspora tunisienne. Donc la diaspora tunisienne, elle est riche de personnalités, de talents, grâce donc à un très bon niveau d'éducation universitaire et aussi une tradition économique qui remonte très loin dans l'Antiquité avec les commerçants phéniciens. Et d'ailleurs, pour rendre hommage aussi à cette période, le cercle Elissa rend hommage à Elissa, donc qui était reine et fondatrice de la ville de Carthage en Tunisie.
D'accord. Donc c'est le point de départ. Et lorsque vous entendez Michel Jonquière nous décliner tous les préceptes du commerce international et Jean-François Benon nous faire part de toute son expertise, qu'est-ce que ça provoque chez vous?
Ça confirme en fait la nécessité aussi qu'il y a de créer le cercle Elissa, parce qu'il y a tout un intérêt effectivement à déjà donner davantage de courage aux entreprises pour les accompagner, et c'est vraiment aussi un des rôles du cercle Elissa de pouvoir renforcer les liens qui existent déjà entre la France et la Tunisie, mais aider aussi à accompagner l'ensemble des structures, qu'elles soient tunisiennes ou françaises, à importer, exporter entre les deux pays.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a la tendance serait plus que la France aille en Tunisie ou l'inverse, la Tunisie en France? Vous le ressentez comment?
Pour moi, c'est vraiment les deux, égal. C'est vraiment équivalent. Aujourd'hui, que ce soit au niveau tunisien ou français, on a vraiment, des compétences, un partage qui est nécessaire. On a une culture qui est différente, mais qui se rassemble beaucoup et qui se ressemble. Pour moi, les deux ont tout intérêt à travailler ensemble, main dans la main, à continuer, parce que ces liens existent déjà depuis très longtemps. Oui, oui. Et le cercle Elissa va juste venir pour essayer de ravivier un peu ces liens qui existent déjà pour accompagner les différents acteurs qui souhaitent évoluer sur les deux marchés. La diaspora aussi, elle rassemble les deux pays. Moi, je suis franco-tunisienne. C'est vraiment essayer de renforcer les deux pays. Comme tu disais, Jean-François, nous, aujourd'hui, on a cette facilité à accompagner, justement, dans les deux sens, que ce soit du côté français ou du côté tunisien. Parce que en fait, en nous, on a ces deux parties qui existent. C'est ça. On a à cœur de le faire.
Alors, vous avez organisé, Sandès, vous avez organisé une table ronde là en septembre qui s'est tenue à Sciences Po. Et le 29 avril, dans quelques jours, se tiendra un colloque au Sénat avec plusieurs personnalités. Quelles sont les retombées de ce genre d'événement?
Alors, donc effectivement, en dehors de nos actions donc qui sont régulières, nous allons organiser donc un colloque au Sénat le 29 avril en présence de Son Excellence, donc Monsieur l'Ambassadeur de Tunisie en France, et de nombreuses personnalités, que ce soit des entrepreneurs, des universitaires et des représentants économiques tunisiens et français. Alors, donc il y aura deux tables rondes. L'objectif, c'est vraiment de mettre en connexion les acteurs, que ce soit du niveau français et tunisien, pour pouvoir travailler ensemble, avancer et partager. Ce colloque va vraiment se concentrer sur les inquiétudes que nous avons tous aujourd'hui qui concernent le réchauffement climatique.
Oui.
Et ces inquiétudes-là, qu'on partage tous, on a besoin d'y travailler, de renforcer nos connaissances et de faire du lien parce que on peut parfois malheureusement travailler un peu dans notre bulle et on a juste parfois besoin d'une connexion qui nous permet d'avancer plus vite et plus loin sur le développement de projets. Je pense notamment à l'hydrogène vert. Tout le monde parle de l'hydrogène vert, c'est l'énergie de demain. Mmh. Il y a beaucoup d'avancées. Pourquoi pas continuer à développer cette énergie en Tunisie, puisque la Tunisie a vraiment aujourd'hui tous les atouts pour pouvoir développer cette énergie. Et voilà, donc un des objectifs, ce sera vraiment de mettre en lien les différents acteurs pour pouvoir développer des nouvelles structures, des nouvelles organisations et des nouveaux projets sur les questions et nos inquiétudes de demain.
C'est ça, le but c'est de produire des chaînes d'approvisionnement plus durables et une diversification en dehors des secteurs à forte intensité de carbone.
Exactement.
Oui.
Exactement. Il y a aussi un partage d'expérience. Aujourd'hui, les villes tunisiennes, c'est vrai qu'elles sont très avancées elles sont bien avancées en tout cas par rapport à certaines villes françaises sur tout ce qui concerne la végétalisation des villes. Donc pourquoi pas aussi faire ce partage de connaissances et aussi de connaissances et les villes françaises également qui sont assez avancées sur cette thématique-là pourraient aussi partager leurs expériences, leurs défis et comment elles arrivent aujourd'hui à surmonter et à développer des projets qui permettent de répondre aux besoins que nous avons aujourd'hui en termes d'équilibre et de bien-être.
Alors, j'ai noté aussi en préparant ce dossier que les entreprises exportatrices pouvaient employer davantage de femmes que celles qui ne se sont pas tournées vers les zones franches industrielles. Michel, votre avis là-dessus?
Non, c'est
pas une réalité.
Non, mais j'ai jamais analysé la chose. Pour moi, hommes et femmes compétents, je dirais, il y a pas de différence.
C'est mon petit côté féministe qui ressort.
Hein, peut-être que si les femmes sont peut-être plus intuitives, plus innovantes et ont moins peur de se lancer dans un projet nouveau. Mais j'ai grande confiance
en
eux aussi, donc je dirais non, je vois pas la différence entre. Alors certains métiers, bien sûr, sont beaucoup plus féminins, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas les utiliser. Mm-hmm. Et puis donc je dirais que l'international n'est pas réservé aux femmes,
d'accord,
ni aux hommes, ni aux deux.
Vous, Sandès,
ça me fait plaisir de voir une dame à côté de moi qui s'intéresse beaucoup à l'international. Nous, dans notre comité Val-d'Oise des conseillers de commerce de la France, 40% sont les femmes.
Ah,
donc
très bien.
C'est déjà pas mal. Donc, c'est presque à égalité, je dirais.
Vous, Sandès, vous le ressentez comment, cet aspect féminin?
Je pense qu'effectivement aujourd'hui, les femmes, elles sont beaucoup plus présentes en tout cas qu'avant. C'est vraiment un ressenti. Elles sont déterminées, mais rien ne se fera sans les hommes. Donc
oui,
on compte sur vous, messieurs.
On est bien aimés.
Voilà, nous sommes le complément des femmes.
Elles s'en sortent bien, Sandès.
Nous sommes de vraies moitiés.
Exactement.
Pour faire un total.
et vous, Jean-François?
Je suis surtout très très heureux de voir effectivement qu'il y a la création de ce club. Sur le rapprochement franco-tunisien, parce qu'effectivement dans le Val d'Oise on a beaucoup de personnes qui sont originaires de Tunisie et il y a un vrai courant d'amitié, d'affaires entre les deux pays. On a parmi les dirigeants d'entreprises ici dans ce département, beaucoup d'entre eux ont effectivement aussi des racines en Tunisie et sont très actifs pour favoriser des connexions avec leur pays d'origine. Et on a reçu, simplement encore une anecdote, on a reçu nous il y a quelques semaines une start-up tunisienne dans le domaine des technologies de l'information, parce que effectivement en Tunisie il y a de la compétence, beaucoup de compétences, de belles universités, des jeunes qui sont très formés. On a d'ailleurs aussi qui venaient nous voir pour des projets de développement d'affaires dans le Val d'Oise. Donc on a aussi ce courant qui vient de Tunisie et des jeunes Tunisiens aujourd'hui brillants qui ont réussi dans des technologies de pointe, qui réfléchissent à avoir des points de chute et des connexions en France. choses complémentaires à tout ce qu'ils font sur place. On a aussi un autre élément, nous, qui nous plaît beaucoup en lien avec la Tunisie, c'est vrai un peu avec le Maroc et l'Algérie d'ailleurs, c'est qu'on a dans nos écoles d'ingénieurs, je pense à l'NCA, CY Tech, on a dans le Val d'Oise un très beau tissu d'écoles d'ingénieurs, notamment dans l'électronique. Et moi, je suis toujours frappé quand je visite ces établissements de voir le nombre d'étudiants originaires de Tunisie. Et ça veut dire qu'il y a des compétences chez les jeunes Tunisiens en matière d'électronique, de technologie, de l'information. Ils sont réputés. Populations qui ont vraiment des vraies compétences dans ces domaines de technologie numérique, digitale et de l'information, dans le domaine de la blockchain, du big data, etc. Et cette communauté d'étudiants, alors tous ne vont pas rester forcément en France.
Bien sûr.
Mais une partie d'entre eux vont décider de faire leur carrière en France. Et c'est une richesse énorme parce que ce sont des compétences de haut niveau qui viennent rejoindre le territoire. Et on a affaire encore une fois, à des jeunes qui ont vraiment un très beau niveau technique, et c'est très prometteur parce que ils n'oublieront jamais évidemment leur pays d'origine, ce qui est tout à fait normal. On a tous des racines, et ça fera du lien, ça fera effectivement cette connexion, même s'ils décident de faire leur vie en France, ce qui arrive. On n'oublie jamais quelles que soient nos racines, on n'oublie jamais d'où on vient, et ça favorise effectivement ensuite ces connexions. Et avec la Tunisie, le Val d'Oise effectivement est bien placé parce qu'il y a énormément d'échanges entre les deux pays.
Ces jeunes pourraient devenir des VIE dont a parlé Michel pour faire le lien entre les entreprises.
Chaque étudiant qui vient d'un pays étranger et qui fait des études supérieures en France apporte de la richesse à notre pays, s'enrichit lui-même dans l'hypothèse où il a envie de repartir ensuite dans son pays d'origine, mais dans l'hypothèse où il décide de rester, de faire sa vie en France, il devient in fine obligatoirement une sorte d'ambassadeur.
Donc
ça favorise énormément les connexions et les courants d'affaires entre les différents pays. Nous, par exemple, on travaille actuellement avec un architecte d'origine tunisienne qui nous aide sur un sujet d'une haute technologie. On travaille, vous le savez, sur le domaine de ce qu'on appelle la mobilité aérienne avancée, les taxis volants. Alors, faut pas trop utiliser ce terme de taxi parce que ce ne sont pas que des taxis. Ça sert aussi à transporter.
Où en sommes-nous?
Ça se développe. On a des contacts très étroits avec le groupe Aéroport de Paris. On a toujours l'objectif, tous ensemble, la région Île-de-France, qui est partie prenante, le groupe RATP, le groupe ADP, d'avoir pendant les Jeux Olympiques, d'ici 2-3 mois, les premières expérimentations avec des passagers de ces taxis volants en Île-de-France. Il y a 5 routes qui ont été déterminées à partir de... On a 5 vertiports qui sont opérationnels aujourd'hui. Le premier a été le vertiport de l'aéroport de Pontoise, dans le Val d'Oise. C'est pour ça que tous les tests se passent sur l'aéroport de Pontoise et on en est très fiers. C'est devenu un centre européen de tests de ces engins volants, mais électriques, décarbonés. Je rappelle que c'est des engins décarbonés et qu'on est dans l'aviation du futur et que ça va remplacer des hélicoptères. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que ce sont des engins qui, pour une grande partie, vont remplacer des vols en hélicoptère. C'est quand même beaucoup moins polluant et beaucoup moins bruyant, faut bien le reconnaître. Et donc, on a également un vertiport qui vient d'être ouvert à l'aéroport Charles de Gaulle, il y en a un qui est ouvert à l'aéroport du Bourget, il y en a un qui est ouvert sur l'héliport de ici les Moulineaux, il y en a un sur le petit aérodrome de Saint-Cyr-l'École parce que c'est le château de Versailles, et donc il y a même un projet d'une barge flottante pendant la durée d'expérimentation à côté du pont d'Austerlitz en plein cœur de Paris. Donc à partir de ces vertiports, eh bien il y a tout un projet de ligne expérimentale pendant 6 mois entre juillet et décembre, et la France, le projecteur des Jeux Olympiques va évidemment mettre la France sous les projecteurs, en valeur, même s'il faut avoir conscience que ça se développe dans tous les pays du monde à grande vitesse. J'ai des contacts
avec... La concurrence va être rude.
Les Chinois commencent à... Vous avez déjà en Chine la possibilité de monter dans ces engins en payant un ticket. Ils ont les certifications pour la Chine. Les Américains vont très vite. J'étais hier avec le PDG d'un groupe, d'une société britannique qui est en train de lancer un projet d'un bus VTOL électrique volant comme un hélicoptère pour une trentaine de passagers. Ça va très vite. Il y a 450 prototypes dans le monde dans ces engins. C'est un écosystème qui se crée et le Val d'Oise est très bien placé. On est parti en avance. Il faut qu'on maintienne cette avance grâce à l'aéroport de Pontoise, mais aussi à tout ce qui se passe dans le milieu universitaire, puisque notre université, CY Sergi Université, vient de décider d'ouvrir à la rentrée 2025 deux formations d'écoles d'ingénieurs spécialisées dans ces métiers. Ça sera pour l'instant, c'est la première formation de niveau ingénieur dans le monde.
D'accord.
Qui est consacrée à la mobilité aérienne avancée. Ça se passe à Cergy-Pontoise, ça se passe dans le Val-d'Oise. Donc on voit comment la synergie se passe. Et j'étais hier avec nos amis de la société Lizzie Aerospace, qui est un des leaders mondiaux de la fabrication des rivets pour les avions. Et on discutait avec les dirigeants comment eux-mêmes sont en train de se positionner pour attaquer le marché qui va émerger de la construction de ce nouveau modèle d'aéronef que sont les eVTOL, ces engins électriques. Voilà, et je disais juste, pour revenir au sujet, qu'un de nos partenaires dans cette aventure qui nous aide actuellement est un monsieur d'origine, est un Tunisien. Qui a très bien réussi dans un gros cabinet d'architectes en Tunisie, qui travaille aujourd'hui au niveau international, il travaille dans le monde entier, c'est un aménageur urbaniste, architecte, et il travaille avec nous pour commencer à réfléchir à un master plan dans le Val d'Oise sur le positionnement des futurs vertiports. Aujourd'hui, c'est bien gentil de construire des engins qui volent, mais il faut prévoir les endroits pour les
bien
poser.
Sûr,
on a eu d'ailleurs des discussions avec Madame le maire de Besançon.
C'est quelquefois le problème des
sujet.
Infrastructures
Exactement.
Qui pêchent un peu.
On a des discussions avec le maire d'Enghien-les-Bains. À un moment donné, ça a un intérêt, c'est électrique, ça fait pas de bruit, mais il faut quand même que ça se pose. Et donc, les villes qui seront les premières à avoir des vertiports vont gagner en termes de compétitivité. C'est un peu comme l'arrivée des gares à la fin du 19e siècle. Il y a des villes qui ont voulu les gares, d'autres qui n'ont pas voulu. Celles qui n'ont pas voulu, elles ont perdu. Et donc, les villes qui seront les premières à avoir des vertiports, elles seront, à mon avis, en avance. Et donc, on est en train de travailler avec ce monsieur d'origine tunisien, sur la réalisation d'un master plan des villes du Val d'Oise qui s'intéressent et qui sont capables d'accueillir des vertiports. La maire de Beson, Madame le maire de Beson, est très active et très curieuse et intéressée dans ce domaine. Voilà.
Alors, Jean-François Benon, je vous invite à participer au colloque qui aura lieu le 29 avril au Sénat avec le soutien de l'AIMF, puisque le titre c'est « Territoire et énergie, la Tunisie hub stratégique d'avenir pour les investissements décarbonés
».
Donc on est en plein dans le sujet.
Voilà. Exactement. Merci Jacqueline.
Je vous en prie Sandès. Sandès, l'émission se termine bientôt, donc peut-être un mot de conclusion avant de se quitter.
Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. J'étais vraiment ravie de partager cette émission avec vous et de vous présenter donc l'événement du 29 avril au Sénat, donc qui est parrainé par le sénateur Rachid Temal, donc sénateur du Val d'Oise, et Corinne Ferré, donc sénatrice également et présidente de l'Amitié France-Tunisie au Sénat.
Et comme vous nous l'avez dit, en présence de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Tunisie en France, Dia Khaled.
Exactement.
C'est ça. Alors moi, je vous annonce officieusement, mais qu'on va probablement créer une émission qui va être consacrée à l'international.
C'est excellent. On pourra se développer encore plus.
Et voilà, donc vous pourrez revenir.
Entrepreneur, n'ayez pas peur, osez l'export. Ce que je vous ai dit, c'est simple. Quatre arguments avec de l'aide de la Team France Export, les conseillers commerciaux de la France. Vous n'avez pas de possibilité de rater.
Mais donc, on va réfléchir.
Venez, et puis si vous avez besoin d'aide, contactez-nous, les conseillers commerciaux.
On va réfléchir au type de l'émission, mais ça pourrait être... entrepreneur, n'ayez pas peur.
Entrepreneur, n'ayez surtout pas peur. Osez l'export. Et faites de la qualité, évidemment. Sans qualité, on ne vend rien. Et ayez la volonté de vous développer.
Jean-François, peut-être un mot de conclusion.
Oui, je crois que tout a été dit, mais encore une fois, le sujet de l'international, et vous avez raison de penser à créer une émission sur ce thème, c'est vital, parce que simplement, on ne peut pas aujourd'hui vivre dans un cercle fermé. On voit la limite quand une organisation, quand un pays, quand une entreprise décide de se refermer et de couper les liens avec l'extérieur, en général, on recule. Vous avez tout à fait raison. Que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les entrepreneurs, que ce soit aujourd'hui, on est dans un monde global qui a des contraintes, qui amène des éléments de compétitivité, de compétition, il faut bien le dire, mais qui est également, et Michel n'arrête pas de le dire, une chance extraordinaire. Un étudiant qui fait un Erasmus, un étudiant qui voyage, est un étudiant qui réussira sa carrière professionnelle, de toute façon, parce qu'il aura intégré cette composante interculturelle nécessaire. Une entreprise qui pense à l'international se met en position de grandir et de grossir et de donner à ses salariés des atouts formidables. Et dans le domaine culturel, c'est pareil, de rester ouvert aux autres et s'intéresser aux cultures. On sait comment ça peut éviter des situations conflictuelles que l'on connaît actuellement. Donc plus il y a de rencontres, plus il y a d'échanges, plus il y a de voyages, plus il y a de capacité à discuter, à partager. Et aujourd'hui, les outils, on peut prendre l'avion, mais on peut aussi le faire à distance en une grande partie. Ça, c'est un peu moins bien, il faut se voir, moi, à mon avis, mais peu importe. En tous les cas, tout ça est positif. Le Val d'Oise est un creuset. Le Val d'Oise est un territoire totalement typique sur cette nécessité, cette chance de l'ouverture internationale. Donc, on serait malheureux dans notre département, notre beau département, si tous autant qu'on est, on n'avait pas cette envie d'avoir cette ouverture internationale. Cette dimension. Voilà. Et puis, à la fin, tout ça est profitable. C'est du business, c'est des affaires, c'est des rencontres, c'est des projets.
Et c'est conserver votre personnel compétent. qu'il est heureux de faire des carrières. C'est l'argument de base, ça. Dans un moment de tension, conserver son personnel compétent et en attirer d'autres, c'est la chose essentielle. Vous exportez, vous vous développez et vous conservez et vous n'avez plus ce problème-là.
Et puis surtout retenir que l'international, c'est la projection, mais c'est aussi l'attraction.
Oui,
et donc
c'est
aussi, et le Val d'Oise de ce point de vue-là, je rappelle un chiffre, il est important, on a dans ce département 1200 entreprises à capitaux majoritairement étrangers. Ça fait du Val d'Oise, un des départements français si dans les tout premiers pour l'accueil d'entreprises étrangères. Et on a plus de 100.
Et ce sont ces entreprises-là qui exporte le plus d'ailleurs.
Oui, absolument.
Elles viennent en France pour exporter. Donc l'attractivité permet l'exportation.
Voilà.
Et dernière chose,
tout est lié.
Oui,
c'est-à-dire que le culturel, l'académique, l'universitaire, le technologique, le sportif. En réalité, c'est un état d'esprit, l'international. C'est pas uniquement réservé au monde économique. C'est un état d'esprit qui touche tous les domaines. Et quand on a la chance d'être dans un territoire propice, nous, on est un territoire propice à l'international pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Ouvert par nature à l'international, et on aurait quand même tort avec nos jeunes et nos familles qui viennent de tout un tas de pays dans le monde, ces mélanges de cultures, cette richesse humaine, ces réseaux et ces entreprises, on aurait quand même très tort de ne pas s'intéresser à l'ouverture internationale.
Voilà, je suis obligée de vous couper la parole à tous. Vous êtes passionnés et j'adore, mais voilà, vous reviendrez, hein, comme je dis très régulièrement
à mes invités. Avec votre nouvelle émission sur l'international.
Absolument. Merci Michel, ce sera le mot de la fin. Merci Sandès Beltaïef pour votre venue. Merci Jean-François Benoît également d'avoir été présent. Et donc merci à tous les trois pour votre belle énergie. Encore merci à nos invités, enfin à nos auditrices et auditeurs d'être fidèles au rendez-vous comme à chaque fois. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le site idfm98.fr. Merci Christophe pour la technique. Et puis donc vendredi à 9h30, je vous donne un nouveau rendez-vous qui sera consacré probablement à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors à vendredi, belle semaine.